Bonjour Gisèle Vienne.
Bonjour.
Vous avez suivi la formation de marionnettiste à l'École supérieure nationale des arts de la marionnette. Est-ce que vous associez le travail de mise en scène à celui d'un marionnettiste ?
C'est plutôt le contraire en fait. C'est vrai qu'on m'en parle souvent parce que j'ai étudié la marionnette et je crois qu'on peut espérer, enfin en tout cas c'est mon approche, que la mise en scène soit plutôt le contraire de la manipulation. Je trouve que ça pose évidemment ces sujets. C'est vrai qu'en tant que metteur en scène ou chorégraphe ou réalisateur, on sait le pouvoir qu'on a. C'est un rapport de confiance très délicat avec les comédiens, avec les équipes qui peut être magnifique. C'est aussi un endroit de vulnérabilité, de fragilité. Donc on sait effectivement le pouvoir qu'on peut avoir sur toute l'équipe. Et effectivement, le pouvoir de manipulation que l'on peut avoir, c'est en ayant conscience de ça, j'ai eu conscience de ça dès mes débuts, à 23 ans. Donc en ayant conscience de ça, évidemment, on a une responsabilité lourde et on évite de se mettre dans ce type de situation, qui à mon sens, par ailleurs, est assez malheureux. Et ce qui est magnifique, c'est plutôt de rencontrer des gens qui nous dépassent, des gens que l'on découvre, des gens que l'on observe. Je pense qu'il est magnifique aussi, c'est d'être dépassé par ce que l'on fait et pas de le maîtriser en réalité. Donc, je dirais que c'est une sorte de dialogue. Je provoque des choses, je génère des situations, je provoque des dialogues. Et après, effectivement, c'est un dialogue continu pendant la création, pendant la tournée. Et du coup, je pense que c'est plutôt le contraire de ce que fait un marionnettiste. Par ailleurs, effectivement, dans les arts de la marionnette, c'est aussi beau d'être à l'écoute des objets que l'on manipule. Mais voilà, c'est-à-dire que j'aimerais surtout pas que la mise en scène soit de la manipulation, bien au contraire.
Dans Jerk, vous êtes dans la tradition pervertie. En quoi c'est important pour vous de faire ressortir au théâtre un aspect assez dérangeant ?
Je crois que c'est pas seulement la question du théâtre, c'est la question de l'art en général. Je pense que c'est un espace... J'espère, enfin, en tout cas moi-même, je suis amateur d'art, de littérature, de cinéma, de théâtre, de danse, de peinture. Qu'est-ce que je vais chercher et quel est l'espace en fait qui me semble être pertinent pour l'art dans la société? Je crois que c'est un espace qui est essentiel pour un dialogue intime entre soi et l'œuvre, ce qui veut dire aussi entre soi et soi-même, se comprendre mieux, avoir la possibilité de se déplacer en soi, de grandir en soi, d'y voir plus clair. Donc je crois que ce dialogue intime est essentiel et je crois qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas tant d'espace que ça dans la société où ce dialogue est possible. Et il est important, je dirais, d'être dans un rapport aussi, enfin pour moi, d'honnêteté, de recherche de soi-même et à travers soi-même de ce que c'est que l'humanité. Et par là, il est essentiel de questionner toutes nos facettes et je dirais les plus présentables et les moins présentables, les plus lumineuses et les plus obscures, ce que tout le monde comprendra. Et je pense que l'espace artistique est un espace essentiel pour questionner effectivement aussi ces zones obscures qui vont effectivement provoquer des questionnements et des sujets qui peuvent être transgressifs. Je pense que ça a été, c'est évidemment le rôle de l'art depuis plus de 36 000 ans. Ce qui est effectivement curieux au XXIe siècle, c'est que parfois cette évidence ne semble plus l'être. C'est plutôt ça qui m'interroge.
Vous associez justement l'art à la spiritualité dans Crude. Est-ce que dans votre travail, vous cherchez à montrer l'horreur de la société dans un but cathartique ? Et est-ce que c'est là que réside la dimension spirituelle de l'art, selon vous ?
Alors je pense que dans Jerk, on fait une expérience en fait de l'horreur, de l'effroyable, de l'angoisse, et j'irai des sentiments mêlés qui vont avec l'horreur. Effectivement, dans l'horreur, dans l'angoisse, dans l'atrocité, les sentiments sont complexes. Donc c'est cette complexité de sentiments qui peuvent aller jusqu'au rire, qui peuvent aller jusqu'à l'attrait, de manière très dérangeante. Mais effectivement, je veux dire, malgré tout, genre, effectivement, plutôt, enfin, pour moi, être plutôt dans un rapport à l'atrocité, à l'effroyable. Mais ce qui était important pour nous, c'est effectivement vraiment d'analyser ou d'essayer d'explorer la complexité des sentiments qui vont avec. Cette complexité des sentiments est, je l'espère, dans toutes les pièces. Crowd est pour moi une pièce beaucoup plus, comment dire, peut-être déploie beaucoup plus vivement la jubilation, la sensualité, l'érotisme qui ne va pas sans violence, qui ne va pas sans désespoir, qui ne va pas... Mais du coup, on est dans un tout autre rapport au corps et une exploration bien différente des émotions. Je pense que j'ai l'impression de montrer en fait des choses, évidemment. Dans mes pièces, on est plutôt dans un rapport frontal. J'ai pas l'impression de montrer quelque chose, j'ai l'impression de partager en fait une expérience. Et je crois que cette physicalité, elle est possible aussi dans un rapport frontal. Donc on voit des choses, mais c'est aussi, je pense que A-Crowd et Jerk sont des expériences extrêmement physiques. Donc il y a quelque chose d'épidermique, de l'ordre du ressenti. En fait, j'ai étudié les arts de la marionnette, mais j'ai aussi étudié la philosophie. Et un des glissements qui m'a fait aller de la philosophie au, je dirais, à l'art de manière générale, c'est effectivement, je dirais, le corps me manquait parfois dans mon travail en tant qu'étudiante en philosophie. Et il me semblait qu'il y avait effectivement quelque chose de la. Enfin, une réflexion qui passait par le corps. Enfin, il y a. C'est pas, je ne vais pas dire l'imparfait, c'est présent. Il y a une réflexion qui passe par le corps. C'est-à-dire que je peux développer ma pensée jusqu'à un certain point. Et l'expérience physique, en fait, permet vraiment de développer sa pensée d'une manière qui n'est pas possible de, purement théorique, qui permet aussi éventuellement de la contredire, de la provoquer. De la... Donc, c'est, je dirais, cette réflexion physique, cette pensée physique que je cherche aussi. Donc, je pense que dans mes pièces, il y a effectivement l'aspect théorique, philosophique, mais aussi, je dirais, on interroge l'intelligence du corps et l'intelligence du corps. Pas seulement des interprètes, mais celle des spectateurs. Et sachant que l'intelligence du corps, c'est l'intelligence de l'esprit, mais c'est vrai qu'on est dans une culture où on dissocie tellement que le corps s'en trouve même parfois étouffé, en fait. Où on est dans une société où on invite le corps à être silencieux ou à être étouffé, voire à ne pas l'écouter. Je pense que c'est un des drames centrales. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'on puisse développer l'écoute de soi-même, et l'écoute de soi-même, ça passe aussi à travers l'écoute de son corps. Donc c'est aussi en ce sens que j'essaie de partager ces expériences avec les spectateurs. Donc oui, je crois que l'expérience cathartique est éventuellement possible dans cette expérience qui mêle à la fois éclaircissement théorique et compréhension physique de manière très forte. Donc je ne sais pas si mes pièces génère l'expérience de la catharsis, mais effectivement, on va dans ce sens-là, et peut-être que pour certains spectateurs, il peut y avoir ce type d'expérience dans l'expérience de mes pièces.
Pour continuer sur le corps, dans Crowd, vous travaillez énormément sur la réception du public qui doit être altérée, en fait, avec la musique qui s'interrompt, les corps qui se ralentissent aussi. Vous avez parlé dans une autre interview de Georges Bataille et notamment de la confusion du corps au monde. Et justement, en quoi c'est important pour vous de créer des parallèles entre des corps irréels et des situations concrètes, comme dans Crowd ?
Oui, je pense que dans Crowd, il y a une expérience assez curieuse qui fait qu'on... Enfin, moi-même, en tant que spectateur, parce que je suis aussi spectatrice des pièces, j'ai un rôle un peu particulier, mais je suis en fait spectatrice de ces pièces-là aussi. Moi, je trouve qu'on a une expérience... un peu altéré, qui vient en fait de jeux de rythme et de lumière. On n'hypnotise pas les spectateurs, mais il s'agit là de certains outils de l'hypnose, en fait, de vibrations de lumière, de dilatation temporelle, de certains types de sons utilisés, qui peuvent effectivement, on le sait, altérer la perception. Et je dirais, c'est à la fois fort et léger. Et je trouve qu'on a ce double rapport, c'est-à-dire qu'effectivement, dans un état un petit peu second, tout en ayant le sentiment... enfin, je dis « on », parce que certains de mes spectateurs m'ont relaté la même expérience, et une clarté du regard, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir mieux, ou plus précisément, certaines choses qui est aussi possible par le ralenti, qui est aussi possible à travers la composition de la pièce, qui effectivement invite à regarder de manière à la fois extrêmement sensible et détaillée certaines parties de la pièce, des comportements, des gestes, des objets, des couleurs. Et vous me parliez également, en citant Georges Bataille, plus précisément lorsqu'il écrit l'érotisme, il faut repréciser que l'érotisme chez Georges Bataille n'est pas ce qu'on imagine de manière générale, un rapport lié exclusivement à la sexualité. L'érotisme chez Georges Bataille, quand il déploie la définition de cette notion, il parle là d'une expérience, et l'expérience de l'érotisme chez Georges Bataille serait effectivement celle du corps mêlé au monde. Il explique effectivement que de par notre conscience, nous nous sentons dissociés du monde, nous voyons la limite entre notre corps, l'espace, les objets, les autres, et peut-être effectivement autrement dissociés de par notre conscience qui fait qu'on serait en dehors ou à côté. Voilà, il décrit en fait cette dissociation de par la conscience humaine de ce sentiment de dissociation au monde comme éventuellement quelque chose qu'on aimerait dépasser et qu'on serait en quête d'expérience, de corps mêlé au monde, de cette confusion du corps au monde, expérience que l'on pourrait trouver dans des expériences, je ne sais pas si c'est ces termes-là qu'il utilise, mais moi j'ai traduit par des expériences sensibles extraordinaires, donc à travers l'expérience poétique, à travers l'expérience mystique, ou gérer des expériences émotionnelles extrêmes qui effectivement altèrent la perception. Donc, ou de manière ponctuelle, on se sentirait mêlé au monde. Alors, l'expérience ultime serait celle de la mort, sachant que c'est une expérience que personne n'a pu relater, je sais vraiment, sauf near death experiences. Donc, voilà, c'est un sentiment, je pense, qu'on peut bien comprendre, qui effectivement, ou à un moment donné, je trouve qu'il y a des œuvres, on peut magnifiquement bien le voir chez un peintre comme Munch, qui dépeint très bien ce sentiment où, effectivement, déjà, la limite du corps est trouble. Je ne sens plus la limite de mon corps à la limite de ma peau. Et on peut comprendre comment, dans certaines expériences émotionnelles ou sensibles fortes, on peut, de manière temporaire, se sentir mêlé à l'autre, à l'espace. Donc, effectivement, c'est aussi possible dans un rapport amoureux, dans un rapport sexuel, mais ce n'est, on peut dire, malheureusement pas la règle. Ça peut être aussi le cas dans ce type de situation. Mais en tout cas, je pense que c'est lié, effectivement, à une expérience sensible, émotionnelle, très forte. Et dans Crowd, on travaille effectivement ce sentiment d'indistinction du corps au monde. Déjà, les interprètes ont une préparation qui passe par la méditation, une gestuelle qui est très inspirée par la fasciathérapie, qui fait qu'ils sont dans un état d'hypersensibilité, aussi d'hyperprésence, qui peut effectivement amener, enfin, eux-mêmes sont gérés dans un état d'émotion qui est plutôt, a priori, et je l'espère, mais en général plutôt extrêmement agréable. Et je leur demande aussi de ne pas jouer pour les spectateurs, c'est d'en faire une expérience qui est réellement d'abord leur expérience. Et je crois que la sincérité, l'authenticité, la force de leur expérience, c'est pour moi beaucoup plus épidermique en tant que spectateur que quelqu'un qui jouerait pour moi, en fait. Le fait que ce soit une expérience si forte pour eux, c'est probablement pas une règle, mais je pense que c'est quand même pour moi une condition en tant que spectateur pour être autrement passionné par ce que je vois. Il y a un autre texte qui m'intéresse beaucoup de Léris, qui était proche de Bataille, qui fait la différence en analysant les phénomènes de possession chez les Éthiopiens dans certains rituels, en parlant de théâtre vécu ou de théâtre joué. Et effectivement, ça mériterait encore de le développer, mais c'est ce qui m'intéresse, on va dire, c'est le théâtre vécu. C'est en ce sens que, évidemment, ça se partage avec les spectateurs, puisqu'on a conscience, on sent les spectateurs, mais c'est tout autant une expérience de l'interprète ou du danseur pour lui-même, ce qui en fait pour moi une expérience d'autant plus forte.
J'ai l'impression que déconstruire quelque chose, c'est aussi mieux le ressentir. Et est-ce que c'est aussi par ça que la marionnette, elle devient intéressante, le fait de regarder aussi en tant qu'interprète ce qu'on fait?
Oui, c'est juste, je pense que... Donc j'ai fait plusieurs pièces avec des marionnettes, j'ai fait aussi des pièces sans marionnettes, et la question se pose de la même manière avec ou sans marionnettes. J'expliquerai ça par le fait qu'on est construit, pour moi, de différentes strates de langue. Et c'est le fait de décortiquer et d'essayer de décortiquer, parce que je suis pas du tout, je n'ai pas fait d'études en psychologie, mais enfin, de ce que j'en sais de manière intuitive, d'essayer de décortiquer d'un point de vue sensible ces strates qui nous construisent. Donc, des fois, je dis les strates de langue qui sont aussi liées à l'émotion. Il y a ce que je vous dis là maintenant, il y a ce que je peux imaginer en parallèle, il y a ce que je peux ressentir. Enfin, on est animé comme ça de différentes strates, de nous-mêmes, qui sont plus ou moins articulées et qui sont présentes. Donc, effectivement, on peut dissocier. Et ça, effectivement, ça se voit alors peut-être moins visiblement, par contre, dans Crowd, mais dans bien d'autres pièces, la manière dont on va déployer, enfin déplier probablement les langues qui nous habitent. Et de dire effectivement ces différentes voix qui peut-être sont effectivement à l'intérieur de nous-mêmes peuvent être déployées par les voix, par exemple des marionnettes, ou dans Jerk, la dernière scène est interprétée en ventriloquie, où Jonathan Capdevielle va être hanté par 5 voix et va oublier de manipuler ses marionnettes. Donc là, on a une autre manière de dissocier en fait les voix. Il va avoir différentes voix, mais plus de marionnettes. J'ai pu faire différentes expériences en fait formelles de dissociation de voix au corps, qui peuvent être par la ventriloquie, par l'enregistrement, par la voix externalisée par un autre comédien, qui sont effectivement des techniques qui ont souvent été inspirées par les arts de la marionnette, mais pas toujours. Mais voilà, en tout cas, effectivement, la marionnette permet de manière très explicite, ce dépliement de nous-mêmes dans l'espace et à travers la parole.
Justement, vous parliez de Jonathan Capdevielle qui était presque hanté dans la dernière scène de Jerk. Est-ce que vous espérez aussi transmettre peut-être une notion de folie avec le dédoublement, notamment avec la marionnette dans Jerk?
C'est certainement un très bon outil pour en parler. Et puis je dirais qu'il y a les personnages de marionnettistes et aussi de ventriloques ont un curriculum vitae assez lourd dans ce sens. Dans Jerk, j'ai pas voulu aller à la folie, c'est-à-dire ce qui... Bon, il s'agit d'un personnage qui aurait été complice de meurtre en série ultra violent, et j'irais encore traumatisé probablement et choqué par ce qu'il a vécu. Il purge une peine en prison et il va raconter au spectateur, donc ce Jonathan Camelot serait ce prisonnier qui ferait ce spectacle en prison devant une classe d'étudiants en psychologie. Et là, il raconterait son histoire en essayant de la mettre à distance à l'aide de marionnettes, principalement, mais aussi d'un fanzine. Donc il y a là une référence très directe à l'aspect thérapeutique de la marionnette. Et on a une classe de psychologie qui regarderait ce spectacle. Donc vous, les spectateurs, seraient cette classe de psychologie, ou au moins cette classe de psychologie serait parmi les spectateurs. Donc effectivement, on y fait directement référence. Mais dans les choix de mise en scène, par contre, je n'ai pas voulu que Jonathan soit considéré comme, quelqu'un de fou, c'est-à-dire quelqu'un qui, ne serait plus en mesure de faire la distinction entre certaines expériences et certaines perceptions. Une folie, ce serait, de ne pas savoir, si je rêve quelque chose et je me réveille et je suis en face de vous, de ne pas faire la distinction, ou j'imagine quelque chose, de ne plus réussir à faire la distinction en fait, entre ces différents types d'expériences. Ce serait... par exemple, de la folie. Donc, je ne voulais pas que le personnage de Jonathan soit fou, mais effectivement qu'il soit troublé au point d'aller vers cette folie. C'est-à-dire qu'il s'en mêle les pinceaux, il n'arrive plus à jouer. Et je dirais que la pièce, pour moi, est d'autant plus curieuse, ou pour moi, ce qu'il y a de plus intrigant, de plus dangereux dans la pièce, c'est presque le rapport du comédien au personnage. On a aussi beaucoup joué ce qu'il y a David Brooks, le personnage, et Jonathan Capdevielle. Sur un sujet aussi extrême, en fait, on se pose quand même la question du comédien. On s'est dit, mais voilà, quel est le rapport de ce type à ce texte ? Qui pose une question essentielle, en fait, qui est effectivement du rapport, on parle du rapport de l'artiste à l'œuvre. Évidemment, la question se pose tout à fait chez le metteur en scène, mais se pose d'une manière tout aussi essentielle chez le comédien. Je trouve que c'est aussi une question essentielle qui est intrigante. C'est-à-dire, quand on joue, on n'est pas quelqu'un d'autre. Quand on joue, on est aussi soi-même. On est soi-même ailleurs. Voilà, donc c'est vrai que sur un sujet aussi délicat et aussi extrême, il y a une inquiétude où on se pose la question de ce type qui est derrière ce rôle. On ne peut pas éviter de se poser la question, d'autant plus en direct. Donc, on a aussi joué, en fait, de cette confusion du comédien au personnage, de manière consciente. Donc, le personnage s'en mêle les pinceaux. Le personnage est troublé. On est vraiment dans une mise à distance de son histoire qu'il essaie de faire à travers la parole. Déjà, il met des mots et il arrive à les dire à des gens. C'est une première mise à distance. Il le fait par le biais des marionnettes, et le fait par le biais d'un fanzine, en disant, voilà, ça, c'est des choses qu'il n'est pas en mesure de dire directement, mais qu'il a réussi à exprimer, à mettre à distance avec l'écriture et à partager à travers la parole écrite. Donc voilà, il y a déjà ces différentes mises à distance. Et sous le coup de l'émotion si intense, en fait, David Brooks, le personnage, s'en mêlerait les pinceaux et oublierait, en fait, de jouer, et oublierait les spectateurs, et oublierait de prendre ses marionnettes sur cette dernière scène. Donc effectivement, cette dernière scène, on va dire, pourrait être considéré comme de la folie. Pour moi, mon parti pris, c'est surtout effectivement un moment de confusion intense où effectivement on est dans la folie sans représenter quelqu'un qui est fou, mais je veux dire quelqu'un qui se perd dans une émotion si forte qu'il oublie où il est, qu'il oublie la situation. Et on joue aussi de cette confusion entre un comédien qui jouerait un rôle si intense, qui par ailleurs l'est, et qui lui-même se perdrait dans ce rôle-là, donc effectivement, qui oublierait de jouer. Donc, pour moi, c'est Jerk est une pièce très inquiétante, mais c'est probablement là, puisque l'expérience réelle qu'a le spectateur de la pièce, c'est quand même de voir ce comédien qui joue ce texte. Et à un moment donné, peut effectivement s'inquiéter du rapport clair ou trouble ou fou du comédien au personnage, en fait. Voilà, pour moi, c'est la zone vraiment la plus dangereuse où Jonathan... je pense très visiblement, un comédien exceptionnel, fait un voyage assez extraordinaire. Donc oui, on m'a dit aussi, oui, Jonathan a l'air possédé. Il a l'air possédé, il est tout à fait conscient de ce qu'il fait. Et effectivement, si on utilise les termes de Léris, on peut dire oui qu'il est possédé, comme les danseurs de crowd sont possédés. Si être possédé, c'est d'être dans un théâtre vécu et pas joué, c'est-à-dire d'être traversé par une expérience, d'être traversé par un personnage. Quand Léris parle de possession... il explique que dans ces rituels, en fait, il y a des personnages types, comme au théâtre, que la communauté connaît, reconnaît, et que les personnes possédées connaissent, comme on a des personnages types dans la culture occidentale. Et c'est pas la... C'est vrai que moi, longtemps, je liais la possession par la conscience ou l'inconscience, et les Grises ne parlent pas de conscience ou d'inconscience, mais c'est effectivement, est-on vraiment traversé par ce personnage? Ou est-ce qu'on le joue, c'est-à-dire est-ce qu'on est déguisé, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de surface ou de traversée. Si on suit Léris, Jonathan est tout à fait conscient, mais effectivement, il est habité, il est physiquement traversé. Donc, d'après les termes de Léris, alors il s'agirait de réelle possession, parce que c'est un type de jeu qui a ce rapport. Mais voilà, je dirais comme dans un rituel. Enfin, je pense que le théâtre, effectivement, a de toute façon, vient des rituels, et à mon sens, c'est encore quelque chose de ce rituel. C'est de quelle manière on va entrer et sortir. La folie serait de ne pas réussir à sortir en fait de cette expérience pour le comédien. Donc il est important de réussir à bien sortir de la pièce pour le comédien.